Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. C'est un immense plaisir de retrouver dans ce studio Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour à vous quatre.
Bonjour. Bonjour.
Lénaïque l'a dit dans le journal, nous sommes le 11 septembre 2021 et il y a 20 ans, deux avions de ligne s'encastraient dans les tours jumelles du World Trade Center de New York. Depuis, le terrorisme du 21e siècle s'est répandu, amplifié. On pourrait même dire cyniquement qu'il s'est banalisé. En 2015, la France, touchée de plein fouet par une série d'attentats parisiens, le 13 novembre faisant 130 morts. Le procès tant attendu a commencé mercredi et l'homme vers qui tous les regards sont tournés, c'est Salah Abdeslam, seul survivant du commando. Question, la justice est-elle adaptée ou faut-il substituer à l'état de droit une justice exceptionnelle comme à Guantanamo? Nous en discuterons. La politique, Éric Zemmour entre en campagne. Le polémiste publie jeudi prochain son nouvel ouvrage intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot ». En quoi ses propos, en quoi sa candidature peuvent-ils perturber la campagne? En quoi propose-t-il un ton nouveau? Quelles sont ses chances? Et puis nous reviendrons sur la mise en examen d'Agnès Buzyn par la Cour de justice de la République hier pour sa gestion de la crise du Covid. Une ex-ministre de la Santé inculpée pour mise en danger de la vie d'autrui, c'est une première. Est-ce le gouvernement des juges? Assiste-t-on à une vengeance de la justice sur le politique? Le responsable politique doit-il se préparer à répondre de la moindre de ses décisions? Débat dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez le programme, installez-vous, le débat des grandes voix, c'est parti. Et nous ne pouvions pas évoquer, ne pas évoquer, la disparition de cet immense acteur qui était Jean-Paul Belmondo. Sa mort lundi, l'hommage national jeudi, les funérailles hier, trois dernières étapes d'une carrière longue de plus de 60 ans, près de 80 films, sans compter le théâtre et la télévision. Bébel, c'était le cinéma, c'était les copains, l'amitié, la bonne bouffe, la fidélité, la transmission, les enfants, les petits-enfants, le sport, le vélo à Longchamp tous les week-ends, le foot. Et bien sûr, mon cher Charles Villeneuve, vous qui l'avez bien connu, Jean-Paul Belmondo, il y avait la boxe aussi.
Il avait une foi, Belmondo, inébranlable dans le sport. Et un amour qui n'a jamais faibli pour la boxe. Il n'était jamais en retard d'une pitrerie et toujours en avance d'une gentillesse pour nous, les journalistes d'Europe 1, notamment lorsque nous étions sur le terrain et en 72-73, j'étais sur le terrain pour les fameuses rencontres entre le champion français Jean-Claude Boutier, poids moyen, et le démolisseur argentin Monzón, bon, Carlos Monzón. Vous savez que tous ces combats ont été produits, organisés par ce qui est l'égal, très différent évidemment de Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. C'est lui qui avait produit, qui avait garantit les bourses de l'Argentin, etc. Et je lui avais demandé, alors qu'il était quasiment au bord du ring, comme nous, les journalistes et les commentateurs, d'analyser toutes les minutes de repos. Et il l'avait fait volontiers, il le faisait toujours volontiers, sans calcul, spontanément, etc. Et c'est juste un extrait de la fin du combat entre Jean-Claude Boutier et Monzón que je voudrais vous faire entendre, ne serait-ce que pour se rappeler qu'il était toujours précis et d'une manière, si vous voulez, technique incroyable.
Honnêtement, je pense que Bretonnel a bien fait d'arrêter Boutier parce qu'il était très... Disons, il a été marqué à l'œil, il était fatigué, les coups de Monzón rentraient de plus en plus. Et je pense que Boutier n'avait plus aucune chance de gagner, il avait beaucoup trop de retard pour moi de toute façon. Il reste champion d'Europe et continuer devant un type qui frappe aussi fort que Monzón, diminué et fatigué, c'était trop dangereux. Et je crois qu'il y avait ce soir, en tout cas il y avait une place au-dessus, il pouvait rien faire.
Voilà.
Oui, je voulais qu'on entende, si vous voulez, sa voix et sa technicité dans ce sport. Il ne faut pas oublier que le 22 septembre 1948, il écoutait à la radio le combat entre Marcel Cerdan et Tony Zell, qui était un démolisseur américain. Marcel Cerdan avait gagné ce combat, c'est ce qui lui avait inspiré de faire de la boxe, mais il avait dit à tous ceux d'entre nous qui le connaissions bien, simplement ce mot, j'ai adoré la boxe, j'avais un bon gauche, mais je n'aimais pas prendre les coups. Donc j'ai préféré finalement être acteur.
Catherine Ney, un mot sur Jean-Paul Belmondo.
Non, mais en entendant sa voix, bon, c'est vrai que c'est un homme qui
qui incarnait la gaieté. Il avait son talent, c'était son don d'empathie qui faisait qu'on avait forcément de la sympathie pour lui. Mais quand on l'entend parler, oui. Il avait cette chose, il avait une gouaille populaire, chic, une nonchalance musclée, qui n'était, derrière, il y avait du travail. C'était quelqu'un, vous savez, qui avait des valeurs, du travail, qui était enfin, unique en son genre.
Gérard ?
Écoutez, moi, je ne connaissais pas personnellement Jean-Paul Belmondo. J'étais comme la plupart des Français de notre génération, de ma génération et de celle d'après, un fan, mais du cinéma. Et je dois dire, la seule chose, que, c'est que je le regardais aux Invalides, dans cette belle cérémonie, et je me suis pris à avoir les larmes aux yeux.
Bien sûr.
J'étais tout seul dans mon fauteuil, et oui. J'avais les larmes aux yeux. Et pourtant, je ne suis pas une midinette. Mais c'est rare que ça m'arrive. C'est rare
mais
que ça m'arrive.
Mais, oui.
Mais j'ai pleuré, quelque part. J'ai pleuré le départ de
Bébel. Non, pas quelque part, t'as pleuré.
Michel Cotta.
D'une certaine façon, c'est une image de l'unité française. Parce que tous les publics l'aimaient, sauf les journalistes. Il faut quand même distinguer les critiques.
Les journalistes
qui détestent
de cinéma.
Généralement, qui détestent
pas tous.
Mais qui détestent généralement le cinéma populaire. Mais au fond, à la fois, on ne peut pas se reconnaître quand on est une femme, on ne se reconnaît pas dans Belmondo. Mais en tout cas, il a tout incarné, il a, avec un talent fou. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais émue par, d'abord par ce bel hommage quand même. L'hommage était beau à la fois de la part des comédiens et beau à la fois les discours qui ont été prononcés et par le petit-fils et par le président de la République.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur Jean-Paul Belmondo qui nous a donc quitté cette semaine.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Changement de décor, on va parler d'Éric Zemmour avec son livre qui sort la semaine prochaine. La France n'a pas dit son dernier mot. Michel Cotta, vous avez lu vous avez lu entièrement le livre ou en tout cas une grande partie.
Une grande partie. Alors, je vais vous dire, c'est très difficile de parler de d'Éric Zemmour. Parce qu'il fait de temps en temps et souvent des constatations qui sont vraies et que l'on sait vraies.
Par exemple
je ne sais pas si dans tous les cafés de la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de femmes, mais dans certains cafés, oui, je suis sûre qu'il n'y en a pas. Même chose sur, évidemment, le péril du terrorisme. Mais on peut le suivre sur certaines choses et se dire, c'est vrai. De temps en temps, on n'ose pas en parler, parce qu'on ne veut pas faire d'amalgame, parce qu'on est... faut faire attention. Et à la fois, on se dit... à un moment donné, il y a quelque chose qui dérape. Il va trop loin, il n'y a pas
on
de
est
solution.
Mal à l'aise.
Tout est apocalypse. Et là, on se dit, mais enfin, quand même, on a peut-être un rôle à jouer. Les générations qui nous suivent ont peut-être un rôle à jouer. Rien n'est automatique. Chacun peut se défendre. Les démocraties ne sont pas forcément dépouillées de réponses à ça. Donc, à la fin, on passe son temps à se dire, quand même, là, il a quand même pas tort. Et puis, à la fois, on se dit, non, c'est pas à ça qu'on veut arriver.
Gérard Carrère.
Il y a deux questions sur Éric Zemmour. La première, c'est pourquoi fait-il peur ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'effectivement, la venue de ce personnage change-t-elle drastiquement l'élection présidentielle ? Alors, je ne vais pas répondre aux deux, mais je vais dire un mot de la première. Pourquoi fait-il peur ? Il fait peur. Sinon, j'imagine que l'autorité de contrôle qui s'appelle le CSA, que Michel connaît bien puisqu'elle a été membre de la première instance de contrôle, comment se fait-il qu'alors que ce personnage, commentateur effectivement de CNews, mais journaliste avant tout et commentateur politique, ce personnage dont on dit qu'il sera candidat, et probablement le sera-t-il, mais qui n'est pas encore candidat, comment se fait-il qu'il soit déjà interdit de séjour ? Si j'ose dire, c'est-à-dire interdit de séjour, je m'explique, Michel, tu me regardes avec les gros yeux parce que tu vas me dire que j'exagère.
Elle n'est pas armée. Elle a une tenue camouflage, mais elle n'a pas dit
ça. Mais il est décompté. C'est comme s'il était déporté. Il est décompté. Et il n'y a aucune raison objective, aucune raison juridique, aucune raison politique, si ce n'est qu'il y a eu effectivement une volonté de la part de quelqu'un de lui demander de faire cette manœuvre, et le président du CSA a eu le tort, le grand tort.
Le tort, le grand tort, mais il a subi des pressions. Hein. Ça a commencé au mois de juin avec le Séjourné, qui est le conseiller de Macron, qui voulait déjà que les éditorialistes politiques, leur temps soit décompté. Et dans les éditorialistes politiques, ils ne pensaient qu'à Zemmour, qui est assez anti-macronien, il faut dire. Et puis il y a eu l'orphelin. Et alors, dimanche soir, ou samedi soir plutôt, chez Ruquier, Léa Salamé, dont on connaît le goût pour le pluralisme, a demandé à Castex quand est-ce que vous, Zemmour, qu'est-ce que... Et là, le Premier ministre a dit, ah, mais il y a des institutions, il y a le CSA. Eh bien, le président du CSA, c'était le samedi. Le mercredi, il a fait ce communiqué pour dire qu'on allait décompter parce que c'était au motif que Zemmour est un acteur du débat politique. Acteur politique, c'est juridiquement, ça ne veut rien dire. Parce qu'on peut dire aussi que Finkielkraut, d'autres sont des acteurs. Mais le problème, c'est qu'il va être candidat probablement à la présidentielle.
Bon. Donc on est dans un nœud.
On est dans un nœud, mais sauf, mais il n'est pas encore. Que ça, son temps de parole soit décompté lorsqu'il sera candidat. Et là, c'est pour forcer, c'est pour forcer CNews à le virer plus tôt. Parce que... Zemmour, il passe 5 heures par semaine à CNews. 5 heures, ça fait 20 heures par mois. Si on donne 20 heures par mois à Zemmour, ça veut dire qu'il faut redonner 20 heures aux autres. Oui. C'est à la fois un gâteau qui est coupé un tiers pour les
y compris Jacques Cheminade, etc.
Voilà, un tiers pour les autres, et ça devient impossible à gérer.
J'ai rien contre Jacques Cheminade.
Oui, d'accord. Mais ça devient impossible à gérer. C'est pour forcer CNews à se séparer plus vite de Zemmour.
Oui, Charles. Voilà. Et après, il faut qu'on fasse une pub.
Il y a à peine un mois, c'est amusant ou intéressant, c'était le Baron Noir, Zemmour. Ouais. C'était une fantaisie de fin de souper. Aujourd'hui, c'est par lui que commencent tous les dîners, quasiment. Bon.
Mais il est à 7 ou 8% selon la projection.
Il peut être aidé par les erreurs de ses adversaires.
Oui, bien sûr.
Et moi, je trouve qu'il est aidé dans cette affaire. Parce que l'interdiction, la recommandation de décompte du président du CSA sonne comme une erreur. Pour moi, en tout cas, une erreur de censure. Et beaucoup de gens, je pense, rejoignent cette opinion.
Alors, nous en reparlons juste après une première pause. Et c'est Michel Cotta qui reprendra ses premiers, Michel. Il est 10h20, 7h20.
10h, 11h. Les grandes voix d'Europe 1. Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, on continue de parler d'Éric Zemmour. Michel, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit.
Je parle, non pas... à la place du président du CSA, mais je me mets à sa place.
Ouais.
Il a été, depuis très longtemps, depuis un mois, on lui dit, attendez, on ne peut pas faire parler quelqu'un qui est devenu, qui sera candidat, jusqu'au dernier moment, parce qu'au fond, c'est lui donner une tribune que vous ne donnez à personne d'autre. Et là, sur ce point, pardonnez-moi, je trouve que le président du CSA, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup consulté, a dit, in fine, oui, il faut décompter. Décompter, c'est pas du tout, je suis désolé, Gérard, c'est pas du tout dire, c'est censuré, pas du tout. S'ils veulent donner une heure à qui veut, aux autres candidats, quand ils seront candidats, c'est très bien. Il reste que garder une place quelqu'un qui n'est plus un éditorialiste. Vous savez, quand c'était Laurent Ruquier qui me racontait que dans les derniers moments de son démission avec Laurent Ruquier, quand Laurent Ruquier lui passait la parole en lui disant « Vous avez une question à poser ?» Éric Zemmour répondait « Non, mais je ne suis pas là pour poser des questions. » Il était déjà cette espèce d'évangéliste qu'il est devenu. Par conséquent, je crois qu'on ne peut pas laisser, on peut peut-être limiter son temps de parole, en attendant, la décision du CSA n'est pas dictée uniquement par le pouvoir.
D'anciens membres du CSA, comme notre ami Françoise Laborde, on rigole, et beaucoup d'autres.
Ouais.
Et
simplement,
je suis de ceux qui ne punissent pas les gens uniquement sur l'intention.
C'est pas une punition. Mais si. On décompte.
Qui ne punissent pas les gens uniquement sur l'intention de l'action. Là, en l'occurrence, il n'est pas candidat, mais on prend des contre-mesures comme s'il était déjà candidat.
C'est un
ça,
acteur,
c'était
vous...
inacceptable mais dans notre système démocratique. Oui, et le président du CSA s'est déshonoré.
Devant le Conseil d'État,
je le
vous
dis comme
la
je
raison.
Le pense,
vous
Monsieur Rockmestre, c'est déshonoré.
Mais en attendant, c'est comme pour tout, en parlant bien, en parlant mal, en attendant, on en parle, ça fait de la publicité.
Voilà. Ne me dites pas qu'il ne compte pas dans le débat politique.
Non, non, mais ça fait de la publicité. D'ailleurs, c'est une publicité qui tombe bien parce qu'il sort un livre que tu as lu et qui sort dans 8 jours. D'ailleurs, Amazon dit déjà qu'ils sont croulent sous les demandes de gens qui veulent l'acheter. Et puis, ça va quand même... Et je veux dire, les macronistes qui ont demandé au CSA d'agir, c'est aussi qu'ils savent...
Pas seulement les macronistes, tous les partis politiques ont demandé...
Tous les partis politiques ont demandé...
Le CSA écoute plus les conseillers
de
ceux de Marine Le Pen ou que ceux de LFI. Bon, mais franchement, mais peu importe. Pourquoi les Macron... Je sais qu'en ce moment, dans le camp Macron, il y a un débat. Il y a ceux qui disent, écoutez, lui, il va arriver, le perturbateur, comme dit le Figaro magazine à la une, eh bien, ça va d'abord faire baisser Marine Le Pen. Ça assure... Il lui prend des voix, ça c'est sûr. Et même aussi, Frédéric Dabi nous le dit sur Xavier Bertrand, vous voyez. Donc la droite, il fait baisser la droite.
Donc au contraire, les Macroniens devraient...
Donc les Macroniens...
Les Macroniens,
mais justement,
non,
mais ils disent que la droite...
Ils ne sont pas d'accord entre eux.
Ils ne sont pas d'accord avec eux. Et les autres disent, attention, ça peut se retourner contre vous.
Bien sûr.
Voilà. Et que vous allez ajouter du chaos au chaos. Et moi, j'ai discuté avec plusieurs des gens du camp de Macron qui pensent qu'avec les sondages qu'il a, il est presque imbattable, sauf avec ce manque d'empathie pour lui qu'on le ressent, tous les élus macronais, quand ils sont sur le terrain. Voilà.
Non, moi, je crois que l'énorme publicité...
Avec Éric Zemmour,
Ce qu'il y a à voir avec Éric Zemmour, c'est que là, il y a une espèce de temps suspendu. C'est toujours, pour l'instant, un Macron, deux Marine Le Pen. Quand on veut, donnant trop de publicité à un autre, vous voyez, ça peut... Voilà.
Alors, l'erreur, je crois, effectivement, politique, de ceux qui, effectivement, essayent aujourd'hui de le mettre de côté, c'est que la campagne formidable qu'il va faire autour de son livre, qui là, pour le coup, ressemble à une campagne électorale, je suis d'accord. Sur les apparences, il va se balader un peu partout, il va faire toutes les grandes émissions.
Ils en font tous un, de toute façon, un livre.
Il va faire toutes les grandes émissions politiques à partir de lundi matin. Donc, bien évidemment, le but, l'objectif, il est simple. C'est un stratège aussi, Zemmour, comme beaucoup d'autres. Et le but, c'est simple, c'est atteindre la barre fatidique des 10 points. Il est à 7-8 dans les sondages. À 10 points, il devient le cauchemar de tout le monde. Pourquoi le cauchemar de tout le monde? Parce qu'on avait tous dans notre logiciel, dans notre tête, l'idée que c'était plié, que c'était Macron-Le Pen. Si quelqu'un, et c'est lui en l'occurrence qui peut le faire pour l'instant, si quelqu'un apparaît à 10 points, 10, 12 points, il apparaît comme celui qui peut casser.
Conclusion en 10 secondes, Charles Villeneuve.
Conclusion, le président du CSA l'a aidé à créer une dynamique. Avec sa décision qui a toute l'apparence d'une censure. Quoi qu'on en pense autour de cette table. Et moi, j'adhère totalement à l'analyse de Catherine et de Gérard quand ils disent de toute façon que bien évidemment, il devient d'un truc rigolo, il devient un truc dangereux.
Dans un instant, avec les grandes voix, on parle de Salah Abdeslam, les attentats du 13 novembre 2015. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneau.
De retour dans le studio Lagardère avec Catherine et Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrère, où je vous le disais, mais vous avez tous regardé votre calendrier ce matin, 11 septembre. Cette date sonne en nous comme un glas insupportable pour tous ceux qui étaient en âge de comprendre. La vue de ces deux avions s'encastrant à pleine vitesse dans les tours du World Trade Center de New York restera jamais dans nos esprits. Ces avions, je parle des autres aussi, celui par exemple qui s'écrasa sur la partie ouest du Pentagone, celui qui s'écrasa au milieu de nulle part en Pennsylvanie parce que les passagers, des héros, ont eu le courage de se rebeller à bord contre les pirates de l'air. Ce 9-11, comme on l'a appelé, ce 11 septembre 2001, avec un bilan de près de 3000 morts, a malheureusement donné le ton pour toute une série d'attaques. Et 20 ans après, le terrorisme est toujours là avec nous comme un virus. On vit avec. Les services de renseignement sont sur les dents. Chaque année, un nombre considérable d'attentats sont déjoués par nos services. Mais en 2015, c'est l'horreur. Charlie Hebdo, l'hypercachère en début d'année, puis le Bataclan, le Stade de France, les cafés parisiens le 13 novembre. De ce commando du 13 novembre, il n'y a qu'un un survivant. Son nom, Salah Abdeslam, interpellé en 2016 à Molenbeek, en Belgique, et depuis en détention à Fleury-Mérogis avec une surveillance vidéo de sa cellule 24 heures sur 24. C'est sur lui que tous les regards se posent au procès qui vient de débuter mercredi à Paris, devant la cour d'assises spéciale. Abdeslam, qu'on attendait mutique, eh ben pas du tout. Depuis mercredi, il est dans la provocation, Gérard Carrérou.
Oui, alors moi je vais défendre une position, peut-être je serai le seul, mais je ne suis pas le seul certainement dans ce pays. Je suis contre le principe et la réalisation telle qu'elle est de ce procès. C'est un peu pour moi, quand le mieux est l'ennemi du bien. Bien sûr, je comprends la douleur et le besoin de savoir de milliers de gens qui ont souffert dans leur chair avec des pertes personnelles, mais on a fabriquer un Barnum, une sorte de remake du procès de Nuremberg qui avait duré 200, il y avait eu 200 audiences, pour glorifier, et on se glorifie tous les jours, et j'entends à longueur de radio et de télé des avocats qui se congratulent, quel beau, magnifique système, quel bel état de droit, on se glorifie, on se gargarise, on se ridiculise quand on voit dans le même temps un terroriste qui nous nargue de la tribune, qui insulte la mémoire des gens, qui parlent de son traitement personnel comme s'il était traité comme un chien. Tout ça fait que, moi je dis, quand nous sommes dans une guerre contre le terrorisme, une guerre dont tous les spécialistes disent qu'elle est asymétrique, c'est pas une guerre d'une grande armée contre une autre, c'est une guerre asymétrique. Et quand on est dans une guerre contre le terrorisme avec cette qualité d'asymétrique, on ne fait pas de la justice comme on fait d'habitude. Le voleur de poule ou le tueur d'une femme n'est pas la même chose qu'un terroriste de masse. Or, on juge là comme si c'était la même chose. Je suis donc scandalisé. Moi, je préfère l'exemple américain. Je sais ce qu'on va me dire. Je préfère le fait qu'il n'y ait pas eu de procès du 11 septembre à ce jour. Pourquoi ? Parce que les Américains n'avaient pas envie que le procès qu'ils allaient faire se retournent contre eux et qu'il y ait des centaines d'avocats qui viennent faire le procès de l'Amérique, le procès de la torture, le procès de ceci, le procès de cela, le procès de Guantanamo. Moi, je dis, dans ces conditions, la démocratie doit se défendre et nous ne sommes pas en train de défendre la démocratie en nous gargarisant de ce beau procès qui fait effectivement, qui fera pendant 9 mois les titres peut-être.
D'accord ou pas d'accord avec Gérard?
Non, je suis en partie Catherine d'accord avec lui, parce que qu'un accusé a le droit de dire ce qu'il estime devoir dire quand il doit se défendre. Oui. Bon, d'abord, moi je trouve étonnant qu'il prenne autant la parole après s'être si longtemps tu et qu'il sait très bien.
Il est bien cadré par le président.
Il est bien cadré par le président, mais attendez, de toute façon, il sait qu'il n'a rien à attendre et qu'il va être condamné et lourdement. Bon, mais même si ce qu'il dit l'accable plus que ça n'allège sa responsabilité, moi, le danger, c'est comme on va raconter ce qu'il dit, il y a un risque social. Parce que dans les esprits un peu faibles, et peut-être chez des gens désespérés, pour ne pas dire dans les banlieues, il peut devenir un héros. Et ça peut être très contre-productif. C'est très dangereux. Et moi je dis, il peut parler, mais moi ce que je voudrais, est-ce que c'est possible, c'est qu'on ne reproduise pas ses paroles lorsqu'il parle à l'intérieur du. Voilà.
Ça, c'est le rôle de la presse, du coup, vous voulez dire.
Moi, au contraire, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important que ce procès ait lieu, et pas seulement pour les victimes. On comprend les victimes, mais.
Mais
je trouve que Abdeslam, pour la première fois, il dit. Je suis un terroriste islamique, et il récite, c'est pas une provocation, quand il récite les premières lignes et son adhésion complète à Allah et Allah qui est le seul, etc. Je trouve que depuis 15 jours, on parlait de ce procès comme si c'était une quinzaine d'illuminés qui avaient décidé, comme ça, un peu au hasard, de tuer des gens. C'est très important qu'on sache que c'est le terrorisme islamique qui se réclame du terrorisme islamique.
Mais on doit faire abstraction de ces provocations, du coup ?
Mais est-ce que c'est des provocations ? Non, c'est volontairement.
Est-ce que les victimes qu'il y a en Syrie ou en Irak pourront prendre la parole ?
Non, mais vous avez raison. Mais je veux dire, ça n'est pas une provocation quand il dit « je suis un combattant ».
Oui, oui.
Et c'est pas mauvais que les Français pensent qu'il n'y a pas seulement des gens qui tuent parce qu'ils sont un peu fous, mais qu'il y a aussi des gens qui tuent au nom d'une religion. Voilà.
Mais quand il dit « il n'y a que la loi divine qui compte », ça veut dire qu'il crache sur notre loi. Bien et sûr. On donne la parole à celui qui crache sur notre loi.
On est d'accord, mais c'est très bien justement qu'on montre...
C'est très bien qu'on crache sur notre loi.
C'est très bien qu'on montre qu'il y a parmi en France, pas ce genre de terrorisme qui a
patrie
changé
des
depuis.
Droits de l'homme.
Mais oui.
Charles Villeneuve.
C'est important qu'on dise ce que c'est.
Charles.
Quand même. Mais on le sait déjà ce que c'est, malheureusement. Oui. Et à nos dépens.
Et alors pourquoi pas le dire?
Vous croyez que je peux parler?
Oui, oui.
Oh, mais t'as beaucoup parlé.
Je vous donne la parole.
Écoute, t'es pas en déficit, là.
Non, mais attendez, on n'est pas en train de faire un décompte du temps de parole, là.
C'est un terroriste. C'est exactement le même.
Ne blaguez pas avec ça. Ne blaguez pas avec ça.
Non, c'est la loi.
Alors, vous savez quoi? Je fais la pub et vous parlez après.
Il y a des mots qu'il vaut mieux pas utiliser.
Monsieur Demoulin, merci. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes de retour avec Catherine, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Le débat continue sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 et le rôle de Salah Abdeslam, Gérard Carrérou à l'instant, qui disait que, est-ce qu'on a raison de tenir un tel procès aussi long? On a tort en l'occurrence. Charles Villeneuve, votre opinion là-dessus?
De toute façon, on craignait qu'il ne devienne une tribune pour l'islam radical. C'est une tribune pour l'islam radical. D'ailleurs, dès qu'il a pris la parole, Salah Abdeslam, il a débuté par la shahada, c'est-à-dire la profession de foi de sa religion, puisqu'il a réaffirmé qu'il était un serviteur de l'État islamique, celui qui a tué, torturé, parfois découpé les yézidis, les chrétiens, vendu les fillettes comme esclaves sexuels, les kurdes, leurs femmes, leurs filles, qui ont eu le malheur d'être capturées vivantes. C'est une abomination, c'est ça l'État islamique. Bon, alors, pour moi, ce procès n'est en rien historique. Sauf évidemment par le nombre de planches de contreplaqué qu'on a montées, etc., et pour entendre un certain nombre de victimes. Bon, mais il aurait été historique si dans les pays qui ont généré ce terrorisme, et la religion qui a généré ce terrorisme, l'islam radical, se serait réuni pour faire des excuses par rapport à ce qui est arrivé dans tous les pays occidentaux où ils ont frappé et continuent de frapper. Ça aurait été historique et donné une dimension au procès. Mais ce procès est nécessaire, de toute façon. Il est bien évident qu'on ne peut pas ne pas le faire.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec Gérard?
Non, fondamentalement, un procès doit se tenir à partir du moment où nous avons des suspects et même des gens qui sont accusés, où il y a des réquisitoires. Il faut le tenir, bien
Michel
sûr. Mais il est bien évident que ce qui s'est passé hier, pendant 8 heures, d'énumérer tout ce qui s'est passé minute par minute, n'a fait qu'arriver, raviver, et que ouvrir toutes les plaies et les souffrances des familles. Et ça, c'est une expérience. Je parlais avec un éminent avocat et deux ou trois éminents juristes qui ont assisté à des procès de ce type. Ils en ont tiré comme conclusion qu'on a doublé la douleur des victimes. Chaque fois que ce procès de ce genre s'est terminé, il faut tenir compte des réalités. C'est bien d'en parler, de tchatcher, de tout ce que vous voulez.
Mais je n'ai pas dit pas de procès, je n'ai dit pas de procès comme ça.
Voilà.
Un procès devant une cour de justice militaire d'exception qui aurait duré 15 jours, 3 semaines, moi je ne sais pas.
C'était ça
qu'il fallait faire,
pour ça,
pas le Barnum.
C'est pour ça, Pierre, quand vous me posez la question en disant vous n'êtes pas d'accord avec Gérard. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord, je suis plus nuancé, si vous voulez. Mais,
c'est une réponse.
Mais par rapport à ce qu'il a dit fondamentalement, il a des raisons de le dire, comme il l'a dit. Alors, moi, je suis contre Guantanamo, parce que Guantanamo, si vous voulez, en réalité, les Américains l'ont créé sur un territoire qui n'est pas le leur, échapper justement au juridisme du système accusatoire américain. C'est la raison pour laquelle ils l'ont... Pour favoriser le renseignement.
Réaction.
C'est tout à fait autre chose.
Juste un mot. Quand tu dis c'est un débat qui a fait de la publicité, en quelque sorte, à l'islamisme et au terrorisme-islamisme.
Qui donne des idées.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, justement, parce que je pense qu'il faut attirer l'attention des gens. Je ne pense pas aux victimes, je pense attirer l'attention des gens sur le fait que, oui, il y a un terrorisme qui change.
Mais c'est à double tranchant.
C'est peut-être à double tranchant, mais moi je veux désigner.
Vous attirez l'attention, vous donnez des mauvaises idées.
Je désigne les choses par les choses.
Ça, on n'y fait rien.
Je désigne les choses parce qu'elles sont. Encore une fois, ça n'est pas quelqu'un qui courait dans la rue et qui d'un seul coup a tué quelqu'un. C'est quelqu'un qui a tué au nom de Dieu. En ayant préparé. Ça fait partie quand même des problèmes essentiels du monde d'aujourd'hui. On ne peut pas enlever ça.
Le point fort de ce que je dis, c'est que s'il avait entraîné ce procès, une vague d'autocritique dans tous les pays générateurs de ce qu'on accueille, qu'on instruit, à qui on distribue des aides sociales et qui ne nous le rendent pas, c'est ça que je veux dire. Et je veux dire que quand il prend la parole, bien évidemment, il a une audience parmi tous ceux qui l'écoutent, l'entendent, et notamment dans les pays d'où viennent tous ces gens-là.
Et la lecture est différente selon comment on l'entend.
Et quelque part, nous serons toujours considérés comme coupables. À travers ce procès, on viendra dire que
soyez
c'est
galant, laissez
faute.
Parler Catherine qui essaye de parler.
Non, moi, la question que je me pose, ce procès va durer 9 mois. C'est-à-dire qu'il finit fin mai. C'est-à-dire qu'il aura englobé la campagne présidentielle. Et selon l'attitude, ce que va dire Abdeslam, je veux dire, ça va jouer. Ça va avoir un retentissement.
À ce point
je pose la question.
Ouais. On sent que Zemmour...
Mais si on est obligé de le sortir de la salle d'audience, par exemple, ce qui peut très bien arriver, à un moment donné, le président qui essaye de le tenir un peu comme un cheval emballé, bon, s'il n'arrive plus, il va demander qu'il soit sorti de la salle d'audience. Et à ce moment-là, il devient le martyr. Il devient le martyr de l'islam devant un tribunal français. On le sort du procès. Vraiment, ça se retournera contre nous.
Vous avez posé une question tout à l'heure, Pierre, d'entrée, quand vous avez présenté le sujet. Où en est-on 20 ans après le 11 septembre 2001 ? Où en est-on dans la plupart des pays occidentaux et notamment européens ? Eh bien, l'islam subversif est encore plus présent dans le monde occidental. Il incite encore plus qu'avant à ne pas s'intégrer aux valeurs des démocraties. Ça, c'est la résultante de 20 ans de guerre contre le terrorisme.
Une pub et dans un instant, on reparle des juges, mais d'une autre façon, puisque c'est le cas Agnès Buzyn, tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance dans le studio Lagardère avec Michel Cotta, Catherine Neige, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. 9 heures d'audition hier et au final une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Agnès Buzyn, ministre de la Santé pendant 2 ans 3 quarts, s'est pris le mur du Covid en pleine figure. Ce mur que nous voyons tous arriver et que pourtant on a minimisé. Je parle évidemment des autorités, un peu comme le nuage de Tchernobyl. Souvenez-vous, aucun risque de propagation, nous disait cette même ministre de la Santé en janvier 2020 lorsqu'elle prenait la parole à l'Élysée. On connaît la suite. La question se pose et les grandes voix sont là pour tenter d'y répondre. Pourquoi Agnès Buzyn paye pour des erreurs collectives ? Pourquoi la Cour de justice de la République alors qu'il y a eu des commissions parlementaires, Catherine Ney ?
Mais parce qu'il y a eu des plaintes, il y en a eu 14 000, et M. Molin s'en a retenu 9. Mmh. Donc il a saisi la Cour de justice de la République. Des juges ont été désignés, qui ont lancé des perquisitions chez plusieurs ministres, le Premier ministre, Édouard Philippe, Madame Buzyn, Olivier Véran, Sibeth Ndiaye.
Qui normalement devraient être entendus de la même façon.
Oui, voilà. Mmh. Et donc, ils sont restés 7 heures dans certaines, même plus que ça. Ils ont regardé tout ce qu'il y avait dans les ordinateurs, y compris ceux des enfants, les placards de la cuisine. Voilà, tout, c'est parce que c'est ça une perquisition, vous voyez, pour montrer que... Quand la justice répond aux demandes, aux plaintes, elle le fait avec une délectation particulière pour montrer qu'elle peut avoir le dernier mot et qu'elle peut humilier ce qu'elle va interroger. Vous voyez, c'est ça, c'est ça que je condamne.
Le but, c'est l'humiliation ?
Le but, c'est l'humiliation des politiques, oui. En partie,
la justice veut devenir, voilà. Et on le voit, c'est pas seulement là. Là, c'est une des manifestations gravissimes. La justice veut devenir le premier pouvoir dans la hiérarchie des pouvoirs d'un pays démocratique. Bon. Ça n'est jamais arrivé en France.
C'est en 89.
Les parlements d'ancien régime ont passé leur temps à essayer. Ils ont abattu d'ailleurs Louis XV.
Catherine,
aujourd'hui, la justice. Pardon, je t'ai interrompu à ta place.
Mais continue, je reprendrai.
La justice aujourd'hui. Parce que c'est infamant un procès pénal. Traduire un ministre, moi j'ai aucune sympathie particulière pour Mme Buzyn, je la connais à peine, ni pour d'autres qui vont être convoqués, parce que immanquablement, après Mme Buzyn, il y aura probablement M. Véran, Philippe, etc. Donc on aura des ministres et des anciens premiers ministres éventuellement. Oui. Ça veut dire une chose précise, ça veut dire qu'on veut, de manière infamante, accuser nos responsables politiques dans l'exercice de leurs fonctions. Et entrer là-dedans, c'est
terrible. Parce qu'ils n'oseront plus gouverner, parce que gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est parfois prendre des décisions sans avoir toutes les données.
Catherine.
Gouverner, c'est difficile, et avec ça, on rend le gouvernement impossible.
Catherine, je vous propose de terminer, puis après, il y a quand même deux autres qui voudraient prendre la parole.
Oui, oui, parce que Mme Buzyn, elle est partie en mars, elle a quitté son ministère en mars pour faire la campagne avec le sujet qu'on sait à Paris.
Elle a été...
Mais je vais vous dire, en janvier, le premier mort en France, c'était un Chinois, c'est vrai. Mais c'est une époque où tout le monde savait qu'il y avait une épidémie en Chine. Et les Européens, dont les Français, en février, ont envoyé pour aider la Chine des masques en Chine. Mmh. Des avions en Chine. Tout ce qu'on avait de masques, on les a pour aider cette pauvre Chine, parce qu'on pensait que ça ne passerait pas. Donc il y avait une sorte d'ignorance, à la fois des politiques, mais conforté par les experts, hein, parce que l'OMS disait, écoutez, les masques, ça ne sert à rien.
Michel
et maintenant, on juge cette femme avec l'arrogance de celui qui connaît la fin du roman. Vous comprenez, les juges, ils connaissent ce qui s'est passé
Michel
après.
Cotard,
non, donc c'est ça, ce procès ridicule.
D'abord, ce procès tombe mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes dans une époque où le virus semble disparaître.
Ah bah dites ça aux épidémiologistes.
Non, mais semble disparaître. Où la vaccination semble marcher, et où il y a tout un tas de gens qui mettent en cause cette vaccination, donc qui mettent en cause cette politique, donc qui mettent en cause grossièrement tout ce qu'a fait l'État depuis 3 ans. Je trouve que ça tombe
ça,
mal.
C'est premièrement.
Bon, qu'on aurait pu quand même attendre un tout petit peu.
Deuxièmement,
ça veut dire qu'on ne peut plus exercer de fonction exécutive. Ça veut dire qu'on est obligé de temps en temps d'aller très vite. Le temps de la politique et le temps de l'action n'est pas celui forcément du temps d'un tribunal exceptionnel. Donc on est obligé d'aller vite à des moments. Si on doit vraiment tout le temps se dire « Ah là, alors qu'est-ce que je fais ? Non, j'attends. Pénalement, je vais être responsable. » Alors, il n'y a plus d'action politique possible, c'est tout.
Oui, juste une correction, le virus ne disparaît pas, on va vivre avec et on va...
Il est en train de diminuer parce qu'on se vaccine.
Je voudrais vous rappeler quelque chose. Nous examinons le cas d'Agnès Buzyn.
Oui.
Il faut savoir que ce qu'en cours et le sort qui est réservé à Mme Agnès Buzyn, et peut-être à l'ancien Premier ministre et à quelques collaborateurs du chef de l'État, notamment son attaché de presse, les maires l'encourent tous les jours. Tous les jours, les maires de tous les élus locaux sont sous l'emprise de cette démarche inquisitoriale de la justice. En permanence, on n'en parle pas. Mmh. On en parle là parce que nous avons affaire à la Cour de la justice de la République. Il faut faire un peu d'histoire pour comprendre que cette créature, la Cour de justice de la République, a échappé à ses créateurs. Quand en 92, François Mitterrand demande justement qu'on modifie un peu la Constitution et qu'une commission est créée, présidée par un éminent juriste, Georges Venel, et par beaucoup de spécialistes du droit et de la Constitution. On crée la Cour de justice de la République pour démontrer et pour montrer que quand un responsable politique doit gérer un dossier comme celui que nous examinons, bien évidemment, il ne peut pas connaître la fin de l'histoire et en tout cas toutes les étapes qui vont, si vous voulez, jalonner justement le développement. C'est à partir de là qu'il s'agissait de montrer que le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, dans l'affaire du sang contaminé, il n'était pas responsable des décisions parce qu'il avait un avenir et qu'il pouvait être un candidat à la présidence de la République. Tout ça avait été réfléchi de cette manière au niveau de la présidence de François Mitterrand. Et aujourd'hui, ça donne ce que nous savons, c'est-à-dire une emprise de la justice sur l'exécutif, le contraire de ce qui avait été imaginé.
Et puis, on se dit quand même, au nom de quoi ces juges ont-ils plus d'informations ? Voudraient-ils être plus... plus aptes à juger que nous, après tout, qui avons vécu ça,
mais Michel,
et qui avons vécu les choses se dérouler les uns après les autres.
Le président de la Cour de cassation et le procureur général de la Cour de cassation font un édito pour remettre en question la décision du ministre de la Justice. Le chef de l'État aurait dû réagir.
C'est là que les ennuis commencent.
Le gouvernement du juge est en marche.
On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrère. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Au château Lestage, figurez-vous, dans le Médoc, une belle région avec Yves Candebord, présent.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Et Ophélie Neyman.
Bonjour à tous.
On va parler vendange, on va parler foire au vin et une émission spéciale aussi sur un grand monsieur de la cuisine, Christian Constant, qui sera des nôtres. A tout de suite.
Formidable, à tout de suite.